Bonjour, bienvenue et bonne année. C'est Comme un broquet court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens, toujours en 2019.
En direct du studio 511, une émission première de l'année, réalisée par Clément Nouguier, assistée de June Loper avec Michel Bézikian à la technique aujourd'hui.
Cette semaine, quand tout remonte à la surface, les gilets jaunes, retour sur l'histoire d'une révolte en cours avec Serge Halimi du Monde Diplomatique.
Là, on a connu une période de panique du pouvoir, comme je crois que l'histoire de France n'en avait pas connu depuis mai 68.
Je bloque le péage de Coutevroux, il s'est jamais rien passé, avec les gendarmes, on mange, on boit. Mais là, on arrive à Paris, on nous attend avec les CRS. On est considérés comme les pires délinquants, quoi, les maillots jaunes.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui
Comme un bruit qui court, que si 2018 ne s'est pas très bien terminé pour la classe dirigeante et que les grands patrons, après être montés au 7e ciel, sont retombés un peu brutalement de leurs nuages, maintenant la fête est finie. Remballez sapins, santons et cotillons, remettez les gilets jaunes bien au fond de la boîte à gants, l'heure est à la restauration de l'ordre républicain. En 2019, on se remet en marche, assez de temps perdu et d'argent, il faut attaquer la réforme de l'assurance chômage et celle de la sécurité sociale.
Les pauvres ont obtenu leur prime de fin d'année, un grand débat va être organisé et il est temps que ce bazar s'arrête, ya basta!
Partout en France, les cabanes sont démantelées, les manifestations interdites, comme celle des femmes demain à Avignon, et pour les réfractaires, c'est garde à vue et interpellation. Dans une note adressée au préfet le 29 décembre, Christophe Castaner demande au préfet la libération complète et définitive de tous les ronds-points occupés, et des amendes pour occupation sans autorisation de la voie publique allant jusqu'à 3000 euros. La fête est finie, on vous le dit. Pourtant, aujourd'hui, l'acte 8 continue, et demain aussi, avec la manifestation des femmes. Et si personne ne peut prédire la suite, on sait déjà que ce soulèvement populaire, inattendu et imprévisible, marquera l'époque. Alors pour mieux en saisir les origines, c'est sur sa genèse que nous allons revenir cette semaine.
Oui, revenir sur ce qui s'est passé ces dernières semaines à la lumière de ce qui s'est déroulé au cours des derniers mois. On vous propose d'essayer de prendre un peu de champ, donc, avec Serge Halimi, le directeur de la rédaction du Monde Diplomatique, qui écrivait déjà par le menu dès 2004 « Le grand bond en arrière », c'est le titre de son livre, « Social et politique voulu par les idéologies des marchés libérés ». Alors, après une année passée à poussivement commémorer mai 68, qu'est-ce qui s'est passé cet hiver 2018 et pourquoi ça semble se poursuivre début 2019 ?
Comme un bruit qui court, quand tout remonte à la surface, c'est jusque 17h sur France Inter.
Quand tout remonte à la surface.
Les gilets jaunes.
Les gilets jaunes.
Droite, droite, les gilets jaunes en France.
Il est l'expression d'un peuple qui depuis 40 ans se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire en son avenir et en sa grandeur.
Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel, d'où, comment ? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France.
Oh, il est là !
Démission !
Démission !
Ces trois dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs.
J'ai même plus les mots, quoi. C'est tellement horrible, j'ai même plus les mots. Comme je dis, je n'ai que des bombes dans ma bouche.
Oh, bravo !
Tous les secteurs ont des raisons d'être en colère. En vérité, tous les secteurs ont des raisons d'être à bout.
Je vous souhaite une belle année 2019.
En général, le discrédit est au bout du chemin. Un autre mouvement social aurait suscité le tiers de cette bouffonnerie. On réagirait. Là, pas du tout. On est sur la lune.
Antoine Chao.
Je crois que l'année 2019 sera l'année des choix décisifs.
Des mesures
décisifs.
Les plus impopulaires.
Mais c'est pas une question de populaire ou impopulaire,
c'est
de savoir ce que nous voulons pour la France.
Charlotte Perry.
Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde.
Qui vont-ils ?
Je suis heureux de vous présenter tous mes vœux pour l'année qui s'ouvre.
Hashtag comme un bruit.
Serge Halimi, bonjour.
Bonjour.
Voilà, pour débuter l'année, une très bonne manière de faire un peu d'histoire immédiate avec le dossier que vous avez fait dans le Monde Diplomatique ce mois-ci. Gilets jaunes, un soulèvement français, et cet article que vous faites en une, quand tout remonte à la surface. Mouvement inédit, imprévu, je cite aussi Laurent Bonelli qui fait un article en disant « Voilà longtemps qu'un mouvement social n'avait à ce point inquiété les gouvernants ». Alors est-ce qu'on peut ensemble revenir un peu sur ce qui s'est passé depuis maintenant un peu plus d'un mois et demi en France ?
Je crois qu'il faut peut-être remonter un peu plus loin qu'il y a un mois et demi. Peut-être remonter à ce qui s'est passé en 2016 déjà, à ce qui a été une forme de panique chez les néolibéraux et les libéraux tout court. Tout allait presque bien pour eux. La Grèce avait été purgée. Elle s'était inclinée devant les diktats de l'Union européenne. Les effets financiers et boursiers de la crise financière semblaient purgés sur le dos de la population, sur le dos de l'emploi des gens, sur le dos de leur pouvoir d'achat. Et puis, il y a un choc qui intervient, politique, inattendu. Été 2016, c'est le Brexit. Automne, l'élection de Trump. Et ce sont vraiment deux événements sur lesquels personne n'aurait parié. Il faut se souvenir que quand le Premier ministre conservateur soumet la question du Brexit à un référendum, c'est parce qu'il est certain que ce référendum, il va le gagner.
Ça devait être une formalité, normalement.
Ça devait être une formalité. Et puis donc, un échec, une mobilisation d'électeurs qu'on n'avait pas vu dans les précédents scrutins, qui, là, manifestent leur mécontentement en votant non.
23 juin 2016, le jour où la Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Union européenne.
C'est bien le camp du Brexit, la sortie de l'Europe qui s'est imposée lors du référendum britannique.
Une explosion de joie au beau milieu de la nuit.
Un scénario qui a pris tout le monde de court.
Et un séisme en Europe. Les Britanniques viennent de tourner le dos à l'Europe.
Et quelques mois plus tard, l'élection de Trump, qui elle était totalement inattendu, au point que les meilleurs analystes, les meilleurs sondeurs disaient qu'il n'y avait pas une chance sur 100 qu'il l'emporte, et donc qu'il l'emporte.
So let me say, it is my high honor to introduce to you the president-elect of the United States of America, Donald Trump.
Thank you very much.
Trump promet, et depuis a mis en œuvre, la fin des traités de libre-échange. Absolument. En Amérique, en Asie.
Et... Absolument. En janvier, il prête serment et il promet la fin de ce qu'il appelle le carnage. Et le carnage, pour lui, ce sont les politiques de libre-échange. C'est la mondialisation qui se serait faite sur le dos des Américains.
J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas de Paris. Notre retrait de cet accord représente une réaffirmation de la souveraineté américaine.
Donc, déjà, c'est quand même le Royaume-Uni qui s'en va, les États-Unis qui ne sont plus du tout fiables. Et en Europe, ça n'est pas mieux. Merkel est affaiblie. Une élection présidentielle va intervenir en France, compromet brillante pour le Front National. Et même le candidat favori des sondages, François Fillon, est un Européen plutôt sceptique qui souhaite un rapprochement avec la Russie. Bref, tout ça n'est pas très bon. Et puis acte 2, alors, la divine surprise, la martingale, le miracle, c'est-à-dire l'élection d'Emmanuel Macron.
Merci Emmanuel Macron d'être avec nous.
Cher Emmanuel, cher Pierre Gattaz, merci pour votre volonté affichée à adapter notre droit du travail. Merci, cher Emmanuel.
Ma responsabilité, c'est de lever les blocages. Votre responsabilité, c'est de vous saisir de ce qu'il y a sur la table.
Cher Emmanuel, cher Pierre Gattaz, merci.
Oui, c'est une loi de gauche. Pourquoi ? Parce qu'elle permet justement de donner plus de droits, plus de liberté. Et la liberté, vous savez quoi ? C'est une valeur de gauche.
C'est quelque chose d'aussi inattendu peut-être que le Brexit et que l'élection de Trump, mais dans le bon sens. Dans le bon sens pour les classes dirigeantes, bien entendu. Je pense que si on avait dessiné dans un laboratoire le portrait robot du candidat des marchés, ça aurait été Emmanuel Macron. Comme les marchés, il est libéral sur le plan économique, financier, mais aussi au plan culturel. Or, les marchés, eux, ne sont ni racistes, ni xénophobes, ni sexistes, ni homophobes. Ils ne discriminent pas entre leurs investisseurs et leurs acheteurs, leurs consommateurs. Donc, l'élection de Macron, c'est magnifique. Le Financial Times, les Échos, The Economist le dessinent même. Il y a même une où on le voit qui marche sur la mer, quoi.
Un mot important, c'est le mot de roman.
Oui.
Effectivement, on n'avait absolument jamais vu ça. Non, il y a un roman, donc on a vu de la politique, un certain talent et aussi une chance. Et la chance, ça fait partie de la vertu des princes depuis des temps immémoriaux. On a quand même vu la mer s'ouvrir de part et d'autre de ce candidat au fur et à mesure des affaires, des accords, des accidents, et lui rester sur son chemin.
C'est vraiment la résurrection divine.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour de son investiture, toute l'hystérie qu'il y avait dans les médias qui racontaient minute par minute son intronisation, comme c'était vraiment quelque chose d'euphorique. Quoi.
Absolument, c'était le remède à cette année épouvantable qu'ils avaient vécue auparavant avec le Brexit et avec Trump. C'est la réplique, mais la réplique dans le bon sens.
Il ne faut pas oublier à quel point Emmanuel Macron a en lui une capacité de séduction extraordinaire. Le mélange de cette expérience incroyable et de cette intelligence très audacieuse, eh bien ça donne ce qu'on voit, c'est-à-dire un président de la République élu à moins de 40 ans.
C'est-à-dire il est vraiment appuyé sur l'histoire de France et il veut en écrire une page avec les Français dans un style très allant. Donc c'est une belle promesse qui devra après s'incarner dans des décisions.
Il s'est posé en homme providentiel depuis le début de la campagne. Voilà. Et Brigitte
ça
Macron
paraît curieux
l'a dit,
chez un homme si jeune.
Elle l'a dit, hein, j'ai parfois l'impression de vivre avec Jeanne d'Arc. Donc pour lui, voilà, il se sent habité de la fonction.
Un homme va arriver à l'Élysée pour prendre ses fonctions. Un jour pour chaque information, ce dimanche est celui d'Emmanuel Macron. Demain, la politique reprendra peut-être ses droits.
Donc, non seulement il est élu, mais il fait élire à l'Assemblée nationale une majorité absolue de clones qui sont issus du secteur privé, qui sont souvent des patrons ou des cadres supérieurs du privé et qui sont tout aussi soucieux qu'Emmanuel Macron de normaliser la France une bonne fois pour toutes. Et il fait élire cette majorité absolue, ça, pas une personne n'aurait pu imaginer que non seulement il serait élu, mais qu'après, dans son sillage, il y aurait une majorité absolue de députés macroniens, élus grâce à lui et pour lui et à son service, élus, rappelons-le quand même, avec 15,39% des inscrits au premier tour des élections législatives. Et ben ça lui donne donc les pouvoirs absolus. Cet homme qui est le portrait robot de celui qu'on attendait, qu'on n'espérait plus, devient président. Là, on passe après à l'acte 3.
Juste avant, ce qu'il faut relever, c'est le dégagisme qu'il y a eu sur les anciens partis qui se partageaient le pouvoir, que ça soit le RPR devenu UMP, devenu Les Républicains, absolument, ou le Parti Socialiste, qui disparaissent.
Et qui disparaissent sans disparaître, puisque Macron est un peu la synthèse de ce qui, aux yeux des marchés, est le meilleur, à la fois chez les socialistes et chez la droite libérale, c'est-à-dire le libéralisme, mais pas le discours xénophobe, sécuritaire, conservateur, etc. Et là, vous avez le mieux. C'est vraiment l'enfant de ces deux familles qui se querellaient et qui ont produit ce qu'il y avait de mieux en chacune d'elles.
Pour l'instant, nous sommes sur un nuage. Pour l'instant, Emmanuel Macron fait un sans-faute. Je crois qu'il est très apprécié de l'international. Ça donne une belle image de la France.
Oui.
Alors après, on a l'acte 3. L'acte 3, c'est la félicité. La grande offensive libérale lancée par Macron très peu après son élection. Il a décidé d'aller vite. Donc c'est le démantèlement du Code du travail.
Avec les ordonnances.
Avec les ordonnances. C'est après la mise en cause du statut des cheminots.
Avec la grève perlée qui s'est avérée être un échec.
Voilà.
Après 3 mois de blocage, la grève unitaire et saute-mouton à la SNCF prend fin ce jeudi. Une fin sans gloire pour les syndicats et le mouvement social qui n'ont pas su se renouveler. Les objets de mécontentement étaient pourtant nombreux, chronique d'un échec.
Et Macron a conscience de cela. Les syndicats aujourd'hui, ils ne représentent plus rien.
Et c'est la baisse de l'impôt sur le capital. On n'en parle pas assez, ça. On parle beaucoup de la suppression de l'impôt sur les fortunes, et on a raison. Mais il y a aussi le fait que maintenant, l'impôt sur le capital, c'est un flat tax. 30%, quels que soient vos revenus du capital. Ce qui fait que, quand vous avez d'énormes revenus du capital, vous êtes moins taxé qu'un contribuable dont le salaire serait très important, et qui, lui, pourrait être taxé jusqu'à 40%, voire un peu au-delà. Et ces actions sont engagées, comme vous l'avez rappelé, les mouvements de protestation, il y en a, mais ils échouent. Par conséquent, la bourgeoisie française et les investisseurs étrangers sont dans une situation d'extase. Au point qu'il y a quelques mois, Christian Noyer, qui a été gouverneur de la Banque de France et qui a été l'un des cerbères de l'austérité, il fallait que ce soit 3% et pas 3,01%, parce que sinon l'Europe allait à volo. Donc au printemps dernier, pour lui, vraiment, tout va bien, et il déclare sur BFM Business.
L'invité.
Notre invité, Christian Noyer, les gouverneurs honoraires de la Banque de France. Christian Noyer, bonjour.
Bonjour, Edwige.
Merci d'être avec nous. Vous
donc,
êtes...
il s'adresse vraiment...
Canal historique.
Voilà, canal historique et au public cible à qui il entend parler. Il leur dit, pour les investisseurs, Paris sort
très
vite
en numéro 1.
Qu'est-ce qui bloquait ?
Alors, qu'est-ce qui bloquait pour Paris ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, je vais peut-être aller ailleurs ? Parce qu'il y avait un droit du travail qui était jugé trop rigide. Maintenant, on a fait la réforme, cet obstacle est levé.
Maintenant qu'on a fait la réforme, cet obstacle est levé.
Ensuite, il y avait la fiscalité qui était un peu trop lourde. Bon,
on allège la fiscalité. Paris est en train de devenir le centre financier, ou est déjà le centre financier le plus important d'Europe continentale.
Je crois qu'on peut le dire, oui. Ouais.
Non, mais c'est important, ça peut la première fois qu'on dit ça, Christian Noyer.
C'est vrai,
Et
ça ne se serait pas passé s'il n'y avait pas, effectivement, le sentiment que tout change en France et une restauration de l'image de notre pays.
Et je rappelle que ce Christian Noyer, sa mission aujourd'hui, c'est de faire venir tous les traders de la City après le Brexit, justement.
Absolument. Et il est très content des premiers résultats, parce qu'il explique que Paris attire maintenant les investisseurs, qu'on s'est débarrassé de ces petits problèmes qui étaient liés à la fiscalité d'une part et au droit du travail de l'autre. Donc ils vont affluer, et ça va être des milliers d'emplois bien payés qui vont permettre sans doute une nouvelle spéculation immobilière à Paris, où, comme on sait déjà, les prix sont inabordables pour ceux qui n'appartiennent pas aux catégories sociales supérieures. Donc tout allait bien.
Tout allait bien, et c'est ce qu'on retrouvait chez le syndicat patronal. On les a rarement aussi peu entendus réclamer ou taper du pied, que ça soit Pierre Gattaz ou son remplaçant qui tient à peu près le même discours. Nous sommes sur un nuage. Et je vous l'avoue, Serge Halimi, j'étais à la fête du MEDEF, qui fêtait ses 20 ans cette année, et l'euphorie était vraiment à l'ordre du jour. C'est tout va pour le mieux, enfin ça va bouger, nous sommes sur un petit nuage.
Absolument. S'ils avaient porté à la présidence de la République le patron du MEDEF, ils n'auraient pas fait une politique très différent.
D'où leur satisfaction dans les travées de l'université d'été du MEDEF.
Oui, d'habitude, on applaudit, c'est comme ça. Chers amis, nous devons maintenant nous saisir de ces réformes pour les utiliser à plein. C'est notre responsabilité.
Bonjour.
Enchanté. Alors, David Butet, président du MEDEF de Côte d'Or.
Bonjour, Thierry Alvernien, directeur économie du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes.
Comment tu vas ?
Ça va.
Bonjour.
Eric
Michou, je suis directeur d'un groupe d'entreprise qui s'appelle Galilée.
Si je vous fais la liste de dernières mesures qui ont été prises, vous me dites si c'est bien ou pas. Il y a eu suppression des cotisations patronales sur les heures supplémentaires.
Oui, ça c'est bien.
Pacte de responsabilité, loi Macron, loi El Khomri.
Ça va dans le bon sens.
Ordonnance loi travail Macron.
Ça va dans le bon sens.
Fin de l'ISF.
Tout ça va dans le bon sens pour les entrepreneurs.
Flat tax 30% sur les dividendes.
Même chose, je crois que vous avez fait une petite liste.
Le MEDEF a obtenu tout ce qu'il voulait du gouvernement.
Il n'a pas tout à fait obtenu tout ce qu'il voulait. Et on en demande quelques-unes d'autres, hein. On ne va pas s'arrêter là non plus, pour encore assouplir et encore permettre d'autres choses.
On espère qu'il tiendra ses promesses. Voilà.
Parce que c'est notre projet !
Chers amis, profitez-en.
La semaine de 40 heures, c'est épatant. On peut quitter sa demeure, 3 jours durant. S'en aller à la campagne, respirer un peu d'air pur. À la mer, à la montagne, jusqu'à la Côte d'Azur. On se donne tellement de peine dans le boulot, que 40 heures par semaine, c'est encore 39 de trop. Autrefois le peuple était réduit à l'esclavage. Il travaillait le jour et la nuit comme un sauvage. heureusement qu'ils viennent d'obtenir des avantages. Ils ne songent plus qu'à ses loisirs et qu'à ses plaisirs. La semaine de 40 heures, c'était pas tant. On peut quitter sa demeure, trois jours durant. S'en aller à la campagne, respirer un peu d'air pur. À la mer, à la montagne, jusqu'à la Côte d'Azur. On se donne tellement de peine dans le boulot que 40 heures par semaine, c'est encore 39 de trop.
Alors là, vous allez vous mobiliser où? Alors, vous avez déjà une idée de comment ça va se passer aujourd'hui?
Aucune idée, on fait le mouvement, mais de toute façon, je pense que le gros du rassemblement, c'est déjà montrer l'unité de tous les Français qui en aura le bol sur les Champs-Élysées. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est juste tout pacifiquement que, au moins, le responsable de l'État nous écoute, écoute le peuple. Beaucoup de gens galèrent à la fin du mois avec leur famille et on en est à survivre. Malheureusement, on en est là. Le problème, c'est à faire la sourde oreille, à mon sens, hein, au peuple qui demande juste à être entendu pacifiquement. Il n'y a aucune violence, il n'y a absolument rien. En disant légitimement que les manifestations n'ont pas été déclarées, bon, c'est vraiment stupide, mais bon, 68 n'a pas été déclaré. Hein.
À Paris, le 15 décembre 2018, trois gilets jaunes se relaient place de l'Opéra pour lire une allocution adressée au peuple français et au président de la République, Emmanuel Macron.
S'il vous plaît !
Merci. Nous adressons cette allocution à l'ensemble du peuple français, ainsi qu'à monsieur le président de la République, Emmanuel Macron. Voilà bientôt un mois que le mouvement populaire des Gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde.
Et à personne.
Il est l'expression d'un peuple qui depuis 40 ans se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire en son avenir et en sa grandeur. Voilà 40 ans que, président après président, élection après élection, les trahisons, les mensonges et les abandons se succèdent. Oui, monsieur le président, nous sommes épuisés. Oui, nous sommes remplis de colère. Et oui, nous n'avons plus d'autre moyen que de faire entendre que d'enfiler humblement ce désormais célèbre gilet jaune.
Le monstre, comme l'appelle M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, peut surgir hors de sa boîte. Alors, tout devient possible.
Et vous venez d'où alors?
On vient du Nord. On vient du Nord, de Cambrai.
De Cambrai.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Ces trois dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs. Et ils sont nombreux.
En fait, c'est quoi? Ils ont peur quoi, de la guerre civile ou je ne sais pas, moi? Parce qu'arrivé à ce niveau-là, on est considéré comme les pires délinquants, quoi, les maillots jaunes. On est sympa avec tout le monde. Moi, je vois, je suis du 77. Hein, je bloque le péage de Coutevroux. Il ne s'est jamais rien passé. Avec les gendarmes, on mange, on boit. Mais là, on arrive à Paris, on nous attend avec les CRS, l'armée, des boîtes privées. C'est dément, quoi. Et nous, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour la violence, on est là pour se faire entendre et se faire comprendre.
Quand tout remonte à la surface, par Serge Alimi.
Le monde diplomatique.
Analyse.
Et donc, on en vient au moment qui vous intéresse, et là, on est dans les dernières semaines, la catastrophe. En tout cas, la catastrophe pour les classes dirigeantes. Vous avez les gilets jaunes qui apparaissent et le premier de cordée qui dévisse. Et on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, eux ne savent pas ce qui se passe. Nous, d'ailleurs, on ne sait pas toujours non plus ce qui se passe, mais on le découvre assez vite et on est moins effrayés que les premiers de cordée et les salles de marché. En février dernier, alors je ne sais pas si vous allez retrouver cette citation, mais elle est assez amusante avec le recul. Le président de la République avait prétendu « Ceux qui m'intéressent, ce sont ceux qui n'ont même plus l'énergie de protester. »
Ceux qui n'ont même plus l'énergie de protester, c'est ceux-là qui m'intéressent.
France Inter, le 7-9.
Il n'y a pas de honte, Karine. Bonjour, une petite phrase du président Macron a retenu ce week-end votre attention.
Oui, et je vous rassure tout de suite, c'est une petite phrase qui n'a rien de polémique, simplement sur le salon de l'agriculture. Emmanuel Macron, qui a été un petit peu bousculé, a expliqué qu'il n'avait absolument pas peur de ces Français qui se sont permis de le siffler. En revanche, les Français qui l'inquiètent, et c'est là que je le cite, ce sont ceux, précise-t-il, qui n'ont plus l'énergie de protester. Autrement dit, toutes les réformes passent aujourd'hui, celles du bac, celles de l'université, la réforme du marché du travail, la suppression de l'ISF et probablement dans quelques mois la réorganisation de la SNCF. Tout est tacitement accepté, en tout cas rien n'est massivement contesté. Emmanuel Macron montre systématiquement qu'il tient bon, ce qu'il laisse, c'est vrai, là encore, assez peu d'espace à la contestation.
Aujourd'hui, je suis là parce que je porte un gilet jaune. C'est pour ça que j'ai mon camarade qui a peut-être des idées différentes que les miennes. Mais au fond, on a tous le même problème. Le Macron qui fait le beau avec son monde, là. Moi, je demande qu'on bloque la capitale, les bringers et tout, là, on va les emmerder. Mais de partout, des petits groupes, de partout.
Samedi 24 novembre, Champs-Élysées, midi.
Oh là là!
Ah, il y a les canons à eau, là, ouais, ouais d'accord. Il y a des barricades qui ont été érigées.
Justement, ceux qui n'ont plus l'énergie de protester, qu'on ne voyait jamais dans des mobilisations sociales, dont on pensait qu'ils étaient la France silencieuse, à la fois la France oubliée et la France silencieuse, d'autant plus oubliée qu'elle était silencieuse, se rappellent le souvenir de la classe dirigeante. Soudain, elle se soulève, elle occupe les ronds-points.
On est là pacifiste, on se fait charger depuis ce matin sans arrêt.
Vous avez été gazé, vous sentez le gaz.
Ouais, moi j'ai pris cher. Ouais. Mais tout le monde y retourne, c'est ça. Moi je suis venu pour faire le 1 plus 1, être la personne en plus pour accompagner le mouvement. Et là je me retrouve à avoir envie de jeter des caillasses sur les CRS parce qu'on pensait vraiment qu'ils compatiraient.
Vous venez d'où, vous ?
Haute-Savoie, c'est ma première manifestation.
Alors, un mouvement imprévu, c'est déjà inquiétant pour le pouvoir qui doit improviser. Mais un mouvement imprévu qui a des porte-paroles, qui ne se reconnaissent pas comme porte-paroles, qui ne sont pas des interlocuteurs, que le pouvoir ne peut pas convoquer lors d'une négociation pour leur lâcher ce qu'on a plus ou moins déjà prévu entre nous de leur lâcher.
Qui a été présenté comme une hausse du SMIC, mais qui n'en était pas une.
Voilà, dans ces cas-là, on peut leur dire, écoutez, vous nous demandez ceci, on va s'accorder sur cela, et puis on se réunit à Matignon, et on obtient un accord entre les deux parties. Donc ça, c'est très bien, mais quand il n'y a pas, justement, de représentants avec qui vous avez déjà établi un contact, que vous connaissez, quand vous n'avez pas de scénario de sortie de crise, là, il devient impossible de négocier. Le pouvoir a peur. Là, on a connu pendant une semaine, une période, une dizaine de jours, surtout après la manifestation de l'Arc de Triomphe, une période de panique du pouvoir, comme je crois que l'histoire de France n'en avait pas connu, sans doute depuis mai 68, lorsque, vous savez, pendant quelques heures, De Gaulle part à Colombey, qu'on ne savait pas où il était à Baden-Baden et qu'il avait rencontré le général Massu. Donc là, il y a cette période de vacances du pouvoir. Et on a connu un peu la même chose avec Macron.
Et un des exemples de ce moment de flottement où le pouvoir s'est senti coupé de la réalité, c'est par exemple cet événement à la préfecture du Puy-en-Velay où Emmanuel Macron est allé faire sa visite. Et voilà qu'il se fait huer.
Oh, il est là !
Démission !
Démission !
L'actualité, c'est donc d'abord cette visite surprise d'Emmanuel Macron ce soir au Puy-en-Velay.
Oui, effectivement, Emmanuel Macron qui est arrivé vers 16h15 ici à la préfecture du Puy-en-Velay pour une visite surprise avant de filer en sortant sur le trottoir encadré par un important dispositif de force de l'ordre. Le président de la République a voulu ouvrir la vitre pour saluer les gens qu'il croyait être amicaux autour de lui. Et c'est tout le contraire qui s'est produit. Il a été rapidement conspué, vous l'entendez. Tous pourris, Macron démission. Les gens l'ont poursuivi pendant un moment, poursuivi ce cortège, obligeant la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, les gardes du corps à sortir d'ailleurs pour l'instant des véhicules pour repousser les gens qui se massaient derrière ce cortège.
Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament.
Ils m'acclament?
Oui.
Et puis le président de la République est parti, toute sirène hurlante. Il a quitté la préfecture du Puy-en-Velay et sans doute vraisemblablement la ville également.
Et il se fait huer, il est un peu traité comme Louis XVI au moment de la fuite à Varennes. Il n'a plus le contact avec le pays et il découvre que peut-être qu'il est détesté, comme certains l'ont dit quelques mois plus tôt. Donc il y a cette inquiétude qui est d'autant plus grande qu'après la casse de l'Arc de Triomphe, alors qu'en général la casse et la médiatisation de la casse provoquent aussitôt un repli de la popularité d'un mouvement social, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est à ce point médiatisée, eh bien, le mouvement reste très populaire. Je disais que ça rappelait mai 68, ça rappelait ces quelques heures ou ces deux jours de mai 68, mais ça rappelle aussi le Front populaire et les grèves de juin, parce que ce qui a effrayé à l'époque le patronat, la classe dirigeante, c'est le caractère spontané du mouvement, et c'est ce caractère spontané du mouvement qui le rend terrifiant. Et lors des négociations de Matignon, au moment du Front populaire, et c'est les négociations de Matignon, c'est un face-à-face entre des interlocuteurs qui ne s'étaient, pour ainsi dire, jamais adressé la parole, les représentants du patronat et les représentants des syndicats qui avaient été pourchassés dans les usines par le patronat, eh bien, les délégués syndicaux, une fois les négociations conclues entre eux et les représentants du patronat, promettent à ces derniers de tout faire pour que le mouvement d'occupation des usines cesse après la signature des accords. Mais ils ajoutaient, l'un des représentants ajoutait, nous ne sommes pas sûrs d'aboutir. C'est maintenant que vous allez peut-être regretter d'avoir systématiquement profité des années de déflation et de chômage pour exclure de vos usines tous les militants syndicalistes. Ils n'y sont plus, ils ne sont plus là pour exercer sur leurs camarades l'autorité qui serait nécessaire pour faire exécuter nos ordres. Eh bien, il me semble que ce moment-là, c'est un peu ce qu'on a connu à cet instant précis où le pouvoir a cherché des interlocuteurs, et à chaque fois qu'il s'adressait à des interlocuteurs, il voyait que ces interlocuteurs n'étaient pas nécessairement les bons.
Ou alors qu'ils refusaient de venir même à l'Élysée.
Ou qu'ils refusaient de venir, ou qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'obtenir de ceux qui occupaient les ronds-points qu'il cesse d'occuper ces ronds-points. Donc avec les Gilets jaunes, c'est un peu la même chose. Alors comment rétablir l'ordre dans une situation pareille? Le pouvoir mobilise la police. Mais est-ce que la police ne va pas être tentée à un moment de se rallier aux côtés des manifestants, parce que socialement, c'est un peu les mêmes groupes sociaux qui sont en action? Le pouvoir essaie de faire peur. Vous vous souvenez de ces quelques heures précédant le week-end du 8, où l'Élysée annonce que des centaines de manifestants vont venir à Paris pour casser et pour tuer.
Ça, c'est Castaner lui-même qui l'a dit.
Voilà. Oui. Maintenant, on peut se demander, mais alors, où était-il? Parce que si des centaines de personnes viennent à Paris pour tuer, ils vont y arriver. Il n'y a rien de très difficile en prenant le train et puis de tuer quelqu'un si on a... Bon, donc tout ça a été inventé pour faire peur, pour dissuader les gens.
Repris en boucle par les chaînes d'infos en continu.
Repris en boucle, ça,
comme il se doit.
Donc ça a été une citation qui a été très largement diffusée. Donc en tout cas, le pouvoir, lui, il a peur. Il cherche à faire peur parce qu'il a peur.
Face aux gilets jaunes, il y aura énormément de bleus demain. En tout, face aux manifestants présentés, en tout cas, comme des tueurs en puissance par le gouvernement, 89 000 policiers et gendarmes à travers la France, la quasi-totalité des compagnies de CRS et unités de gendarmerie mobile, 8 000 représentants des forces de l'ordre à Paris. Le gouvernement force-t-il le trait ou bien est-ce qu'il relaye des alertes reçues par différents canaux? Peut-être un peu des deux, en tout cas, il ne cesse d'alerter sur la très grande violence potentielle de la journée demain. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.
Si aucune revendication juste et légitime ne doit être tue, aucune ne peut justifier la violence et la volonté de tuer. Parce que ce à quoi nous avons eu affaire, c'est aussi la volonté de tuer et de tuer nos forces de l'ordre.
Et ce que vous relevez, c'est que cette peur n'a pas été communiquée au peuple, quoi, qu'il n'y a pas eu cette contagion comme le pouvoir et les gouvernements le souhaitaient.
Alors, au peuple non, mais la classe dirigeante, elle, fait bloc. Il y a un moment au début du mouvement où la droite fait comme si c'était un mouvement favorable à la droite.
Oui, parce qu'on paye trop de taxes, c'est un mot d'ordre.
Il y a trop de fonctionnaires, etc. Elle essaie de récupérer le mouvement comme ça. Et puis, le mouvement évolue de manière un peu bizarre et ils mettent au premier plan la réforme de la fiscalité, la baisse de l'impôt sur le capital dont on vient de parler, la suppression de l'ISF. Et la droite ne peut pas se solidariser d'un mouvement comme celui-là, puisqu'elle était favorable. Elle voulait même aller plus loin. Elle voulait totalement supprimer l'ISF et qu'il n'y ait pas d'impôt immobilier. Donc, la droite prend peur et elle décide, c'est terminé, là, il faut que ça s'arrête. C'est le moment où Laurent Wauquiez prétend, et c'est un mensonge, qu'il n'a jamais porté de gilet jaune.
Est-ce que vous avez regretté à un moment donné d'avoir enfilé le gilet jaune, Laurent Wauquiez ?
J'ai jamais enfilé le gilet jaune.
Vous avez affirmé que vous n'aviez jamais porté de gilet jaune. Or, vous avez été photographié avec un gilet jaune par-dessus votre parka rouge le 24 novembre au Puy-en-Velay. Pourquoi avoir menti ?
On comprend bien que pour eux, cette parenthèse est close. Les médias, d'abord bienveillants, sur BFM, on peut dire qu'ils ont beaucoup traité le mouvement. Dans le journal télévisé de Pernaud, cette idée, voilà, c'est la France dont on vous parle.
Oui, c'est la France périphérique.
La France périphérique qui s'exprime, c'est celle dont je vous parle tous les jours à 13h. Donc les médias sont d'abord bienveillants, et puis ils se retournent. Pendant cette fameuse semaine, j'imagine qu'elle sera très largement étudiée maintenant, entre le 1er et le 8 décembre. Au point que, la veille du 8, vous avez deux intellectuels qui ont été proches du Parti Socialiste l'un et l'autre, Gérard Grimbert et Eli Cohen.
Économistes,
qui mettent les journalistes en garde. Et qui leur disent, je cite, « Les journalistes doivent certes informer les citoyens, mais ils doivent également contribuer à les former. Il ne faut donc pas encourager ce mouvement à n'accepter aucun compromis. » Il n'est pas besoin de jeter de l'huile sur le feu que personne ne pourra plus bientôt éteindre sans violence. Il faut au contraire rappeler aux Gilets jaunes que tous les Français pâtiraient de l'effondrement du système. Bref, les journalistes doivent se rappeler qu'ils ne sont pas de simples observateurs, mais qu'ils font partie des élites dont le rôle est aussi de préserver le pays du chaos. Fin de citation. Là, vous avez quelque chose d'assez magnifique. Vous
c'est du Noam Chomsky illustré.
Voilà, c'est deux intellectuels qui font la leçon aux journalistes en leur disant « Ne faites plus votre métier, entre guillemets, d'information. Là, vous faites partie de la classe dirigeante et c'est la classe dirigeante qu'il faut sauver ou vous périrez avec elle. » Et ensuite, alors, vous avez donc la droite qui fait bloc, les journalistes qui se retournent contre le mouvement. Ensuite, et surtout, la Commission européenne, les institutions européennes, c'est-à-dire l'Allemagne, bien sûr, qui tous adorent Macron et qui ne veulent surtout pas qu'il tombe. This is not a free world, just a free market. Evolution is over, just start your browser, dig your gold and do what you're told. I guess we are lost and completely numb. We dance to our beat of a loud war drums. This is not a free world, just a free market. Red flag on the floor, became a red carpet. It's not a free world now, it's just a free market.
Les grandes entreprises vont payer, ils vont distribuer des primes, tous les grands groupes, hein, parce que d'abord ils ont vraiment eu peur à un moment d'avoir leur tête sur des pics. Revolution has failed, no easy answer. Back to your job, keep pushing the knob. Looking for a needle in a stack of needles. Learn how to think before it gets illegal. Walk like a zombie on a haunted trail. Brain dead man in telling tales. This is all wrong on so many levels. Cause new time needs new kind of rebels.
Parce que maintenant que le Brexit a eu lieu, parce que maintenant que Trump est au pouvoir et que l'Italie vire fasciste et que
vous avez Orban et que vous avez la Pologne, etc.
C'est le dernier pion, quoi.
C'est le dernier pion. C'était d'une certaine manière l'île heureuse. L'île heureuse n'est pas une petite île quand même. La France, ça pèse. Donc il faut surtout pas que Macron tombe. Donc on lui annonce qu'il n'est pas du tout entre l'enclume des gilets jaunes et le marteau des contraintes budgétaires européennes, qu'il n'y a plus de marteau, voilà. Qu'il peut lâcher du lest. En quelque sorte, on lui donne le feu vert en lui disant « Vous pouvez augmenter les déficits si c'est le moyen pour vous d'acheter la paix sociale. » Il ne sera pas du tout dans la situation de Tsipras, qu'on essaiera de faire capituler tout de suite en lui disant « il n'est pas question d'accorder quoi que ce soit, au contraire, il faut prendre davantage ».
Là, c'était pour la Grèce, c'était un impératif catégorique qui a conduit à la mise à sac du pays, les retraités dans la rue, en dessous du seuil de pauvreté, et ainsi de suite. Là, la Grèce qui a été vraiment mise en coupe réglée.
Absolument. Alors, on ne sait pas quand la discussion a eu lieu entre Macron et la Commission européenne, mais il y a quelqu'un qui peut servir d'excellent intermédiaire, qui est Pierre Moscovici, qui est un socialiste, mais très macronien, et qui est commissaire européen à l'économie. Eh bien, il annonce, et je crois que c'est sur l'antenne de France Inter, une station qui le reçoit toujours très gentiment. Il annonce la bonne nouvelle au pouvoir. Il lui annonce que il peut lâcher du lest. Et cette citation que je reprends dans l'article, elle est assez parlante parce que très inattendue. Quand je l'ai entendu le matin, j'ai sursauté, je me suis dit, c'est très étonnant qu'ils disent ça, quoi. C'est que vraiment, ils ont très peur.
C'est que les tenants de l'orthodoxie lâchent la bride.
Absolument. Et il dit...
Mon rôle à moi, qui est celui d'être, c'est vrai, le gardien du pacte de stabilité et de croissance...
Qui suit le gardien du pacte de stabilité et de croissance...
N'est pas de dire à tel ou tel pays, vous devez couper dans les dépenses sociales...
Vous devez toucher à tel ou tel impôt.
Vous devez toucher à tel impôt, vous devez abaisser tel impôt, vous devez
augmenter
tel impôt.
Respecter la règle des 3%.
Il y a une chose qui doit être respectée.
C'est déjà impressionnant, parce que c'est ce qu'ils ont fait quand même pendant les 10 années ou les 15 années précédentes, en disant vous devez réduire telle dépense sociale et vous devez augmenter tel impôt ou réduire tel impôt.
La politique au nom de la réduction des déficits.
Ça n'est que le début. La phrase suivante est encore plus étonnante.
Cette règle des 3%, c'est pas la principale. Gérald Darmanin disait, je l'entendais, de 9 ou 3-1.
Oui, bon, c'est pas l'enfer ou le paradis.
C'est pas l'enfer ou le paradis.
Derrière la virgule.
Et là-dessus, il n'a pas totalement tort. Et c'est à la France de décider ce qu'elle doit faire.
2,9 ou 3,1, c'est pas l'enfer ou le paradis. On a vécu dans cette idée qu'il fallait absolument passer sous la barre des 3%, que sinon il y avait d'ailleurs des mesures de sanctions, y compris de sanctions financières. Et vous avez le commissaire européen à l'économie qui dit « c'est pas principal, 2,9, 3,1, c'est pas grave, c'est pas l'enfer ou le paradis ». Et il enchaîne « c'est à la France de décider ce qu'elle doit faire ».
C'est à la France de décider ce qu'elle doit faire.
Mais je ne vais pas dire aujourd'hui « la France est menacée de sanctions, elle est sortie des procédures de déficit ». Il faut que vous restiez en place. Vous avez une marge de manœuvre importante. Allez-y, rétablissez la situation. Donnez du grain à moudre, en quelque sorte, aux manifestants. Et quelques jours plus tard, le 10, devant 23 millions de téléspectateurs, c'est un record historique, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce des mesures qui font franchir la barre de 3% du déficit.
Pour résumer, c'était la fin de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2000 euros par mois, c'est ça ?
La défiscalisation des heures supplémentaires.
Et un appel aux entreprises de donner des primes à leurs salariés, avec un petit coup de fil aux entreprises amies pour qu'elles montrent l'exemple.
Et quelques jours plus tôt, ils avaient renoncé à la taxe sur l'énergie. Ouais. Tout ça fait grosso modo 10 milliards d'euros, donc fait franchir allègrement la barre des 3%. Mais, encore une fois... L'alerte, comme le dit le poète, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, l'alerte était telle qu'il fallait que les choses reprennent en quelque sorte leur ordre naturel. Donc ça, c'est l'acte 4, qui est à mon avis un acte très intéressant, enfin, que les historiens étudieront, j'imagine, dans le détail.
Parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose là d'historique.
Il s'est passé quelque chose d'historique, il y a eu une peur terrible, qui était liée au fait que ce mouvement était imprévu, qu'on ne savait pas quels étaient les interlocuteurs qui pourraient y mettre un terme.
On pensait que tous les opposants étaient rentrés dans le rang et muselés à souhait.
Et que toutes les ficelles habituelles de la violence médiatisée, etc., ne donnaient aucun résultat, puisque le mouvement demeurait populaire en dépit de tout.
Avec des sondages qui valent ce que valent des sondages, mais qui tournaient autour de 70% de soutien populaire.
Voilà.
Qui c'est qui prend le taxi ? Il est gentil. Sur LCI, qui crie sa colère en chant, qui fait de l'économie, et qui est à court d'argent, Selena Rothschild, merci, c'est les petits commerçants. Exactly.
le Parlement. Tout le monde en rigole et plus personne n'y croit. Et voilà, pour qui t'as de l'antipathie?
T'es gentil.
Qui fait 70%?
Et méchant.
Qui gaz au bon de la crise?
T'es gentil.
Et qui se retrouve devant? Tard accompli.
Gentil.
Peur des pavés maintenant.
Méchant.
Ils veulent l'Europe à tout prix.
Gentil.
Ils veulent nourrir leurs enfants.
Un autre mouvement social aurait suscité le tiers de cette bouffonnerie. On réagirait. Là, pas du tout. On est sur la Lune.
On a marché sur la Lune avec Jean-Michel Apathy ce matin.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Gare Saint-Lazare, samedi 8 décembre. C'est Paris assiégé par les forces de l'ordre.
Un peu spontanément dans une autre direction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va
retourner
le
cortège.
On
n'a
plus qu'à se faire arroser, c'est tout.
Et vous, venez d'où?
Cherbourg. Ils ont fait des vents.
Ah bah ça y est, on voit un petit véhicule blindé qui arrive là, plein pot. Voilà.
Et donc, policiers, on ne nous empêchera pas de manifester. Et donc, urgence.
Qu'est-ce qui bloque là?
Le rassemblement est prévu sur les champs.
Pour les gilets jaunes, ouais.
Après, vous avez le climat.
Ouais, c'est ça. La République. Nation. Ok, vous, vous êtes gilet jaune, c'est ça?
Ouais.
Vous venez d'où?
Moi, je viens de Seine-et-Marne.
Et à côté pareil, du 91. Bon. Première manifestation, et parce que pour une fois, j'ai l'impression que c'est peut-être le seul moyen de changer les choses. À un peu bouger en haut, que les gens réagissent. Mais alors que d'habitude, les manifestations, on n'a jamais rien et que les gens viennent, ils manifestent et le lundi matin, ils retournent au travail, il ne se passe rien.
Parce que c'est une nouvelle forme de manifestation, quoi.
Ouais,
c'est
parce que, en fait, moi, j'ai manifesté, par exemple, la marche Stop Macron, etc. Ça sentait qu'on était juste là pour marcher, pour dire qu'on n'était pas content. Alors que là, on marche, on n'est pas content. Et si ça bouge pas, on est prêt à tout. Donc, moi, je ne suis pas prêt à tout, mais il y a beaucoup de gens ici qui sont prêts à tout. Et ça, il faut vraiment qu'ils arrivent à le prendre en compte parce que sinon. Ça va mal finir. Depuis deux semaines, il réagit pas. Il est à l'étranger, machin. Après, il n'ose pas s'exprimer parce qu'il a peur que ça parte en cacahuète. Enfin, tout ça, ça montre bien qu'ils sont complètement hors champ, quoi. Ils sont complètement hors champ.
Le plus difficile est devant nous. Les mesures les plus impopulaires restent à prendre.
Qu'est-ce que je crois,
Bruno Le Maire?
Je crois que l'année 2019 sera l'année des choix décisifs. Pour notre pays.
Ministre de l'économie et des finances.
Quelles dépenses publiques sommes-nous prêts à réduire pour pouvoir enfin réduire significativement les impôts et les taxes des Français? Les réponses, c'est la réponme
des
retraites.
Quelles dépenses publiques faut-il
La réponse, laisser. C'est la réforme de l'indemnisation du chômage. Mais oui, les choix décisifs sont devant nous.
Et donc là maintenant, on est en quelque sorte dans l'acte 5.
Serge Halimi.
L'idée que le pouvoir a d'un retour à l'ordre. Que finalement, l'épreuve est passée. Il a lâché du lest, mais il n'a rien lâché d'essentiel. Le 13 décembre, le même Christian Noyer revenait donc après les événements.
Ancien gouverneur de la Banque de France, rappelons-le.
Pour annoncer que les marchés étaient rassurés. Et il déclare...
Le choix fait par le président de la République et le gouvernement était de ne pas remettre en cause les réformes structurelles qui sont les choses qui paraissent aux yeux du monde entier indispensables pour dynamiser l'activité et la croissance en France, à juste titre.
De ne pas remettre en cause les réformes structurelles qui paraissent aux yeux du monde entier indispensables pour dynamiser la croissance en France.
C'est un choix qui fondamentalement rassure. Alors évidemment, il ne faudrait pas que les troubles continuent, donc il est temps que ça s'arrête.
Mais pour l'instant, c'est tout à fait rattrapable. Et il ajoute...
Ce qui reste vrai, c'est que la France a fait depuis 18 mois des réformes qui n'ont été faites nulle part ailleurs. Mm-hmm. Nulle part ailleurs, ni en Europe, ni dans le reste du monde. Mm-hmm. Alors, on en avait particulièrement besoin, mais enfin, c'est quelque chose qui demeure. Mm-hmm.
Et ce qui demeure, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, dont il a parlé tout à l'heure, la réforme du marché du travail, celle de la fiscalité, qui sont les deux gros morceaux entrepris par Macron, dont vous remarquez qu'il n'a rien remis en cause lors de son allocution. Donc, les choses vont bien. Il y a cet espoir que maintenant, l'alerte est terminée. Et le pouvoir, non seulement n'a rien lâché, mais se prépare aux réformes suivantes. Mais la leçon ne les a pas apaisées. On aurait pu penser qu'ils attendraient un peu avant de lancer le nouveau cycle de réformes. Mais on est à peine une semaine après que les choses se soient un peu calmées. Et on nous parle simultanément de droits des chômeurs, de retraites, de fonctions publiques.
Alors que beaucoup disaient, voilà, le quinquennat est fini maintenant, Macron ne pourra plus rien faire. Et voilà que, pour le coup, c'est moi qui vous cite quelqu'un, c'est Benjamin Griveaux qui déclarait encore, il y a quelques jours, nous devons aller plus loin dans le changement, être plus radicaux dans nos méthodes.
Nous devons aller sans doute encore plus loin dans le changement, être encore plus radicaux dans nos méthodes, dans nos manières de faire, dans notre style. Nous devons aller au bout de l'envie de changement des Français, car c'est cette envie qui nous a porté au pouvoir, et nous ne l'oublions pas.
Oui, il est certain qu'Emmanuel Macron et le gouvernement pensent que l'orage est passé, mais ils ne sont pas forcément très bons météorologues. Après tout, ils n'avaient pas prévu ce qui vient de se passer, et nous non plus.
C'est ça. Vous dites le pouvoir a vacillé, mais il n'est pas à terre, et voilà pourquoi il se permet de surenchérir. Dans des mesures qui vont vraiment dans le sens, là on parle de l'indemnisation des chômeurs, qui est dans la suite de mesures qui ont été prises précédemment, c'est-à-dire non pas trouver un emploi plus facilement, mais radier des chômeurs plus aisément.
Et le pouvoir a aussi démontré pendant cette période qu'il était prêt à utiliser la manière forte. Ça a été la répression qu'on a connue, les interpellations massives. Avant la manifestation du 9, je crois, il y a eu 1200 personnes interpellées, donc c'est tout à fait considérable.
Préventivement. Ce qui n'était jamais vu, à tel point que Amnesty International a même fait un rapport en dénonçant le recours au flashball et au LBD qui ont fait les personnes éborgnées, mutilées.
Oui, et on a vu aussi des blindés dans Paris pour la première fois depuis je ne sais combien de temps. Donc il y a à la fois les réformes qui continuent et la disposition du pouvoir. Comme le disait je ne sais plus qui, les gens qui ont peur ont envie de se venger de ceux qui leur ont fait peur et de ceux qui ont été témoins de leur peur. Donc là, il y a ce raidissement très net qui est peut-être lié à la trop grande confiance qu'Emmanuel Macron conserve en ses capacités politiques, ou peut-être pense-t-il que compte tenu de l'état de l'opposition politique, ce mouvement n'a pas de débouché et finira par s'épuiser. Mais il faut encore une fois se souvenir que ce mouvement a démarré dans le contexte politique relativement sinistré que nous connaissons. Donc il y a une forme de découplage entre les deux qui ne garantit pas que l'absence de débouchés politiques signifie la fin du mouvement.
On fera bien ce qu'on voudra, où on voudra, comme on voudra, sans vous prévenir, sans rien vous dire, et ce sera votre cauchemar. Est-ce qu'on aura des gilets jaunes ou des armes par destination? De toute façon, vous avez peur. On fera bien ce qu'on voudra, où on voudra, comme on voudra, sans vous prévenir, sans rien vous dire, et ce sera votre cauchemar.
T'as pas entendu comme un bruit?
Comment?
T'as pas entendu comme un bruit?
Comment?
Dernière question, Serge Halimi. N'empêche, ce qui reste de cet événement, puisqu'on s'est dit qu'on n'allait pas faire de prospective ni de prévision, puisque c'est vraiment l'histoire qui est en train de se faire au présent, là. Mais ce qui restera, en tout cas, très certainement, de cette succession d'événements, c'est que sont revenus sur le tapis, par la force des choses et par la base, en fait, populaire, des questions qui n'en étaient plus. Le transport, la fiscalité, l'environnement, l'éducation et même la démocratie représentative avec le référendum d'initiative citoyenne.
Absolument, tout ce que vous dites est tout à fait juste. C'est pas que ces questions avaient disparu, mais on pensait qu'elle n'était plus une source de mobilisation sociale. Bon, il y avait toujours des partis politiques qui portaient ces revendications, mais on pensait que ça n'était plus une source de mobilisation sociale. Et on a vu que, par exemple, la question de l'impôt sur le capital ou de l'impôt sur les fortunes n'était pas réglée et que ça risque d'être une difficulté politique tenace pour le pouvoir jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, dont personne ne peut vraiment prédire maintenant la suite.
C'était Comme un bruit qui court. Merci à tous et on se retrouve samedi prochain à 16h.